E-Radio, en direct du Parlement européen de Strasbourg, Romain Lostis.
Merci à toutes et à tous d'écouter Euradio en direct du Parlement européen à Strasbourg. Lors de cette émission, nous recevons deux députés européens. L'eurodéputée française Sylvie Guillaume joindra à nous pour la deuxième partie de cette émission. Et dès maintenant, ici avec moi, Marc Tarabella, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Marc Tarabella, je le rappelle, vous êtes député européen belge. Alors en Belgique, vous avez été notamment ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion Sociale. Vous êtes aujourd'hui bourgmestre d'Antine dans la province de Liège. Et à l'échelle européenne, bien sûr, vous avez été élu député européen lors de trois législatures successives, 2007, 2014 et enfin 2019. Membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, vous siégez notamment à la Commission du développement et de l'agriculture et vous avez également été désigné vice-président de la délégation parlementaire pour les relations avec la péninsule arabique, notre sujet du jour. Et justement, cette région du Moyen-Orient est à l'ordre du jour de cette session plénière au Parlement européen. Les 705 eurodéputés ont notamment tenu ce lundi, donc 21 novembre, un débat sur la situation des droits humains au Qatar. Le contexte de ces discussions est connu de toutes et tous. C'est celui de la Coupe du monde de football masculin de la FIFA pour l'année 2022 qui a débuté donc au Qatar. Mais ce que voulait mettre en avant, avant tout, ce débat organisé au Parlement européen, ce sont les apparentes violations des droits humains au Qatar par le coup en ce moment. Alors pour commencer, Marc Tarabella, une question simple sur un problème qui est loin de l'air. De quelle violation des droits humains parle-t-on ici et quel est le lien avec la tenue de ce mondial de football au Qatar?
Bien, il faut faire un peu d'histoire plus ou moins récente ou éloignée. Je suis aussi co-président de l'intergroupe du sport au Parlement européen et ce dossier aujourd'hui vient un peu tard. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, il y a 9 ans, on a voté une résolution dans ce Parlement qui se lamentait notamment des conditions déplorables des travailleurs au Qatar. Sauf que depuis, l'eau a coulé sous les ponts, que le Qatar a entamé des réformes, qu'il y a eu une pression qui est montée à la fois de la part de journalistes, d'organisations syndicales, auprès de l'Organisation internationale du travail, que l'OIT et le Qatar ont entamé un dialogue avec l'Organisation internationale du travail, avec la Confédération internationale des syndicats, et qu'il y a eu un réel progrès. Donc aujourd'hui, c'est un paradoxe de voir que dans le pays du Golfe arabique où le droit des travailleurs a le plus progressé, notamment par l'abandon du système de confiscation du passeport, de dépendance par rapport à l'employeur, la kafala, le Qatar l'a abandonné par la loi en 2020, définitivement. Mais il a aussi voté un salaire minimum, voté le paiement non plus par cash mais par compte bancaire avec des contrôles pour vérifier que les gens étaient bien payés, à temps et à heure, etc. Il y a d'autres réformes où on abandonne le travail dans les heures les plus chaudes au mois d'été, entre 10h du matin et 15h30 quand il fait 45-50 degrés dehors, etc. Et donc tout n'est pas parfait au Qatar, loin de là.
Mais finalement, la polémique sur ces milliers d'ouvriers décédés, c'est une réalité au Qatar.
Oui, le chiffre n'a jamais été confirmé. D'ailleurs, le Guardian est revenu sur ces chiffres en disant « oui, peut-être que c'est pas... » Mais aujourd'hui, on cite toujours le chiffre de 6500. C'est probablement plus de 1000, très clairement, dans le secteur du bâtiment, sachant qu'il y a des constructions qui ont été faites pour la Coupe du Monde, des stades de football, mais aussi des bâtiments destinés à devenir des hôtels, etc. Donc, oui, il y avait une situation, elle a évolué. Ce qui ne va pas aujourd'hui, et ce qui m'exaspère, c'est le combat des carabiniers d'Offenbach des droits de l'homme, comme je les appelle, qui se découvrent peut-être se faisant une publicité sur le dos d'un événement hyper médiatique, le plus médiatique au niveau sportif, au niveau mondial, et qui le font maintenant et qu'on les a pas attendus auparavant. Et donc, parce qu'il y a eu cette évolution, et il faut continuer à accompagner le Qatar dans les contrôles, et singulièrement les collègues, je pense à Manon, Brie, mais aussi les collègues du groupe Renaissance, très clairement, la France doit balayer devant sa porte. C'est une donneuse, on est souvent, en France en tout cas, des donneurs de leçons à la planète entière, mais sachez qu'au Qatar, si des lois sont encore violées aujourd'hui, c'est notamment à cause d'entreprises, et surtout européennes, qui travaillent au Qatar, et moi j'en ai relevé 12, des données très claires qui viennent du ministère du Travail au Qatar. Il y a une Espagnole, il y a une Hollandaise, une Danoise et 9 Françaises, dont la RATP, il faudra le dire à Madame Aubry, notre collègue qui monte toujours aux barricades.
Vous dites que ce sont les entreprises étrangères qui violent la loi au Qatar?
Ah ben il y en a, oui, mais c'est une des causes. Ça veut dire que le Qatar doit améliorer ses systèmes d'inspection, évidemment. Mais comme ça se passe aussi en Europe, des entreprises rechignent à appliquer les lois, les nouvelles lois. Et par exemple, en ce qui concerne la représentation des travailleurs, en l'absence encore de syndicats aujourd'hui, il n'y a pas encore de syndicats autorisés au Qatar. Mais la loi a prévu qu'il y ait une concertation au sein des entreprises, que les travailleurs doivent être représentés.
La loi qatari.
La loi qatari, qui ne les représentent pas. Des grands groupes français, il y en a 9, mais dont la RATP. Alors c'est marrant parce que la CGT y est majoritaire, et donc la RATP va donner le mauvais exemple à l'autre bout du monde. Et donc, on veut donner des leçons à la planète entière, je crois qu'il faut aussi balayer devant sa porte. Et je trouve que le débat doit être continu. Ce qui est aujourd'hui choquant, c'est que ça revienne seulement maintenant, parce que la Coupe du Monde vient de commencer, alors que le combat, on l'a entamé, d'autres, dont je fais partie, l'ont entamé. Dès l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, on l'a beaucoup critiqué, et notamment au regard, bon, je sais bien qu'il y a le climat, il y a la construction de nouvelles infrastructures, qu'est-ce qu'elles deviennent après la Coupe du Monde. C'est des débats qu'on a encore plus aujourd'hui avec le débat climatique. Mais par rapport aux droits des travailleurs, mais on va être contre-productif si on écoute la gauche dans ce Parlement, les Verts, ce que j'appelle les populistes de gauche aujourd'hui, eh bien, on risque de faire régresser les droits parce qu'ils doivent encore évoluer.
Là, vous parlez de ceux qui condamnent vraiment systématiquement.
Mais ceux qui condamnent et qui n'admettent pas qu'il y ait eu des avancées. Et ça, c'est contre-productif par rapport à une évolution qui est encore nécessaire dans le futur, non seulement au Qatar, où ils doivent encore améliorer les choses, mais aussi dans les pays voisins. Je rappelle qu'il y a 2 millions de travailleurs migrants au Qatar, mais dans tout le Golfe arabique, il y en a 40 millions, dont 20 millions en Arabie saoudite, 8 millions aux Émirats arabes unis. Et là où le moindre effort n'a pas encore été fait. Et je n'ai pas entendu ni Manon Aubry, ni les Verts discuter des droits des travailleurs lorsqu'il y a eu l'exposition universelle de Dubaï. Et donc,
Diriez que plus on tape, entre guillemets, sur le Qatar pour sa gestion des droits des travailleurs et des droits humains dans son pays, plus ses voisins se sentent un peu laissés libres de faire ce qu'ils veulent.
Exact. Ça veut dire que le Qatar va peut-être déjà suivre les efforts qu'ils doivent encore faire et auxquels on peut participer en les accompagnant. Moi, je le répète, en envoyant des inspecteurs, former les inspecteurs du travail là-bas. Voilà une proposition intelligente qui est venue de Belgique, notamment. Je crois que la France a la même proposition. Elle est la bienvenue. Mais est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont avoir envie de continuer les réformes puisqu'on leur tape dessus?
Alors justement, ces réformes au Qatar, à vous entendre, donc c'est le travail entamé il y a des années par le Parlement européen qui a encouragé ces progrès.
La résolution de 2013 insistait déjà et sur les conditions déplorables et saluait l'intention du Qatar d'entamer des réformes. Mais force est de constater que ce que je dis là aujourd'hui, c'est salué dans un rapport de l'Organisation internationale du travail, de la Confédération internationale des syndicats. On ferait quand même bien les écouter un peu. Et donc aujourd'hui, je regrette que, je dis au sein de ce Parlement, toute une série de collègues semblent ne pas écouter, ne pas lire, ne pas avoir lu ces rapports. Et il fallait le faire depuis des années. Donc, c'est ce que j'appelle les carabiniers d'Offenbach des droits de l'homme.
Donc, pour qu'on ait une idée un peu plus concrète de ce dont on parle, parmi les exemples de progrès que vous nous avez donnés, il y a aussi celui de... On avait beaucoup entendu parler, il y a quelques années, de ces ouvriers étrangers ou même de ces sportifs professionnels qui se voyaient privés de leur passeport à leur entrée au Qatar.
Eh bien, maintenant, c'est
interdit.
Et l'année passée, 300 000 travailleurs ont pu changer d'employeur. Je crois que c'est sur les deux derniers exercices, plus de 300 000. Ce sera souligné dans la résolution qui devrait être votée demain. Et donc aujourd'hui, il y a une mobilité beaucoup plus grande, ou bien simplement de retourner au pays. Quand un travailleur a, peut-être que sa famille, les enfants sont grandis, ils ont été à l'école, peut-être qu'il a envie de rentrer dans son pays. Et donc, parce que beaucoup de l'argent qu'il gagne est renvoyé dans le pays, et sert à maintenir, et peut-être à améliorer le sort aussi de leur famille, de leurs enfants. Et donc, la liberté est fondamentale de travailleur, de choisir de changer d'employeur, ou de retourner dans son pays. Et ça, aujourd'hui, le Qatar le prévoit, les autres pays, pas encore dans cette zone du monde.
Donc une situation des ouvriers étrangers, finalement, qui n'est pas parfaite,
Mais loin de là, ce n'est pas une social-démocratie.
C'est amélioré.
Mais l'amélioration, il faut, je le répète, la saluer et les accompagner pour qu'ils continuent une fois que les lampions et les lampes de la Coupe du Monde seront éteintes. C'est ça qui est important.
Donc finalement, ce discours très nuancé que vous avez et qui n'est absolument pas partagé par d'autres eurodéputés, ça vous amène finalement... Est-ce que vous diriez que vous n'êtes pas d'accord avec celles et ceux qui appellent à boycotter le Mondial de football ou...
Non, évidemment, je ne boycotte pas le Mondial de football. Je n'irai pas au Qatar. Moi, je regarde les matchs quand je peux. Évidemment, le travail prime toujours, mais il faut regarder les matchs à la télé, essayer de les voir ensemble si on veut. Moi, je ne boycotterai pas.
Selon vous, ça va encore plus frustrer ces pays du Golfe dans leur réforme ou...
Mais moi, je ne juge pas les citoyens qui décident en âme et conscience de... J'ai dit que le boycott, ceux qui appellent au boycott dans les sphères politiques, sont des hypocrites. Les citoyens... On ne leur a pas donné toutes les informations. On leur a dit, on a fait du Qatar bashing dans les médias, et rarement une information, rarement, ça a été fait par, je pense qu'il y a des documentaires, notamment télévisés, qui ont été plus objectifs, mais ici dernièrement, mais ça n'a pas été fait au moment où les lois ont été prises. Et donc, évidemment, les citoyens moins bien informés, ben je comprends qu'ils se sentent solidaires, qu'ils aient envie de manifester leur solidarité avec les travailleurs qui sont décédés. C'est normal et c'est humain. Donc je ne les juge pas, je juge simplement les politiques qui, eux, ont les moyens de s'informer, qui ne l'ont pas fait,
et qui auraient dû
et qui se donnent bonne conscience à bon prix pour paraître très bien devant leur électorat. Mais c'est préjudiciable à l'évolution des droits de l'homme, je le répète. Leur combat est contre-productif.
Mais finalement, cette réaction que vous dites tardive sur la question des droits des travailleurs, elle est peut-être un peu moins sur la question des droits humains. On a, ne serait-ce que cette semaine, la polémique sur ces fameux brassards en solidarité aux minorités LGBT qui ont été interdits, non pas par le Qatar, mais par la FIFA.
Oui, donc la FIFA ne donne pas un bon exemple pour l'instant.
Donc finalement, l'indignation médiatique et populaire qu'on voit a un certain fondement, finalement.
Oui, il y a des erreurs. Enfin, l'air conditionné, quand il fait 21 degrés à 22 heures là-bas, c'est complètement tordu. D'ailleurs, les gens s'en plaignent. Et donc, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y a des corrections à faire. Ou bien interdire la bière deux jours avant, ça me paraît de l'improvisation. Il fallait le prévoir avant. Et je pense que ça n'est pas mal. Enfin, dans les fan zones, c'est autorisé. Mais je crois que la FIFA n'a pas donné un bon exemple, et notamment avec le port du brassard symbolique qui permet de rappeler que la cause, notamment de la liberté de choix sexuel, d'orientation sexuelle, reste aussi un combat qu'on a mené, qu'on a relativement plutôt réussi au niveau européen, variable selon les pays, hein, parce qu'il y a quand même des pays d'Europe qui, là aussi, on donne des leçons, mais dans l'Europe entière, tout le monde n'est pas non plus sur la ligne libérale que nous affichons dans des pays comme la Belgique ou la France.
Alors finalement, pour en revenir à ce débat qui avait lieu au Parlement européen sur la question des droits humains au Qatar, qu'est-ce que vous avez pensé finalement de l'issue de ce débat ? Quelle serait la position officielle ou les actions à mettre en œuvre ou à ne pas mettre en œuvre justement par l'Union européenne ?
Mais moi, je crois qu'il faut rester ferme, mais saluer les avancées. Saluer les avancées et dire, et on continue à l'avenir, et on peut vous aider. Si on n'est que négatif, c'est contre-productif. Voilà ce que je combats aujourd'hui.
En tout cas, on vous remercie pour cette approche plus nuancée qu'évidemment l'overdose d'émotions finalement qu'on peut avoir parfois dans les médias. Vous avez apporté des éléments d'explication. Moi, je vous remercie.
Et alors, je termine en disant, les joueurs, il y en a qui ont appelé à ce que les joueurs boycottent. Jamais. Un athlète ne doit jamais être victime de choix qui ont été faits et qui sont peut-être des choix controversés. Mais le sportif, il s'entraîne, qu'il soit professionnel en football ou amateur quand il va aux Jeux Olympiques, il rêve de gagner une médaille ou de soulever la Coupe du Monde pour un footballeur. Et même s'il gagne beaucoup d'argent, les footballeurs aujourd'hui, tant mieux pour eux. Mais quand on est gamin, on rêve de gagner trois choses. Le championnat national avec son club, le club de son cœur, la Coupe d'Europe, la Champions League et la Coupe du Monde avec son pays.
Oui, au final, là, on tombe finalement dans un autre débat. C'est celui de peut-on dissocier le sport de la politique, finalement ? Une vaste question.
Je pense que les choix doivent être faits de manière beaucoup plus raisonnable dans le futur par rapport à toute une série de critères, dont évidemment les droits humains. Et peut-être faut-il commencer à les respecter avant les choix, c'est vrai. Mais, je le répète, les sportifs ne doivent pas être victimes, jamais, victimes de choix politiques.
En tout cas, moi je vous remercie chaleureusement, Marc Tarabella, d'avoir répondu à nos questions.